jusqu'au verset 16, 17, verset 13, jusqu'à verset 17, je vais lire cette petite section de l'épître de Jacques, Jacques chapitre 4, et au verset 13, il est dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » C'est la parole de Dieu. Je pense que c'est simple à comprendre. Hein. Il n'y a pas de difficulté là. On pourrait refermer nos Bibles et puis partir chez nous. Et parce que c'est tellement clair ce qui est là. Mais rassurez-vous, on va rester quand même un petit peu. Hein. Je vais vous retenir un peu. Voilà, donc à qui Jacques s'adresse ici dans cette section ? Il dit « à vous hein ». Et là, ça marque une différence avec ce qu'il dit avant. On voit qu'il s'adresse à une catégorie spécifique de personnes. Mais à qui est-ce qu'il s'adresse ? On pourrait dire à « je vous laisse la parole ». Si vous deviez définir à qui il s'adresse ici, comment qualifieriez-vous ces personnes-là ? Regardez notre texte. À des personnes qui ne connaissent pas Dieu, oui, ça, qui font ce qu'elles veulent. Des orgueilleux. Des matérialistes. Des insensés, oui. Oui, tout ça, c'est bien. Hein. Moi, je vois des... On pourrait penser à des chefs d'entreprise. Hein, qui ce sont des businessmen. Des personnes qui savent se projeter dans l'avenir. Qui ont une certaine confiance dans la reprise économique, qui vont aller chercher la croissance là où elle est, hein, dans la ville où elle se trouve, qui ont déjà projeté combien de temps cela pourra durer, une année, qui sont sûrs d'avoir un retour sur leur investissement, parce qu'ils disent nous gagnerons, et puis il y aura du travail, il y aura du trafic. Hein. Et donc, on peut dire que ce sont des gens qui ont des projets d'avenir, hein, qui ont des projets d'avenir, des gens qui ont confiance même dans le succès de leur entreprise ou dans la conjoncture économique. Hein. Ce n'est pas des moroses comme les Français. On dit que les Français sont moroses. Hein. Quand ils regardent l'avenir, ils sont moroses. Là, on a des gens qui sont pleins de projets, pleins de confiance. Ils ont un business plan, une ville, d'accord, une durée, un profit. Hein. On pourrait dire que voilà, c'est des gens qui ont planifié des choses. Et donc, je pense qu'on n'aura pas du mal à se reconnaître hein, dans les traits de ceux qui sont définis là. Peut-être à part les moyens, je sais pas, mais nous avons quand même beaucoup de moyens. Hein, nous faisons partie des 1% des plus riches de la planète. Donc, nous avons aussi les moyens. Mais on pourrait nous reconnaître surtout parce que dès notre plus jeune âge, on nous parle de projet. Hein. Maintenant, même quand les enfants sont dans les petites classes, on dit « quel est ton projet professionnel ? Quel est ton projet d'avenir ?» hein. Et on nous parle beaucoup de cela. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Quel est ton projet professionnel ? Qu'est-ce que tu projettes comme études ? Quel métier ? Dans quelle ville projettes-tu vivre ? Quel est ton projet d'épargne ? Qu'est-ce que tu... Voilà, quel est ton projet ? Tout est sous forme de projet, de planning, de choses que l'on... se propose de faire. Mais selon vous, est-ce que Jacques critique la planification ici de la vie en elle-même ? Hein ? Non, on pourrait dire que non. Hein. Il dit pas aux gens, il s'adresse à ces personnes, mais il ne leur dit pas, vous ne devriez pas planifier. Il dit pas, vous ne devriez pas partir dans une ville. Il dit pas, vous ne devriez pas y trafiquer. Il dit pas, vous ne devriez pas y gagner de l'argent. Donc ce n'est pas ce qu'il dit ici. Et la Bible montre qu'il est important de faire des projets. L'apôtre Paul, par exemple, dans Romains, chapitre 1 et au verset 13, il dit à l'église de Rome, quand il écrit, il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché. » Mais n'empêche, il dit qu'il a formé le projet. Et quand vous lisez Romains, chapitre 15, il parle de ses projets de voyage, je vais aller là-bas en Espagne, quand je serai resté un certain nombre de temps en Espagne, je viendrai vers vous, etc. Et puis après, voilà. Et donc, il partage la planification qu'il a de sa vie. Donc, c'est que quelque part, il a réfléchi, il a fait des plans avec des durées aussi pour sa vie. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, si Jacques ne critique pas ici le fait de planifier, sur quoi est-ce qu'il met le doigt, d'après vous, dans ce passage? Sur quoi est-ce qu'il met le doigt? Sur quoi est-ce qu'il insiste? Sur quoi est-ce qu'il interpelle les personnes? S'appuyer sur ses propres forces, oui. L'indépendance de Dieu. Voilà, le fait de se confier dans ses projets. Ça, oui, très bien, tout ça, c'est bien. Hein. D'autres choses, il y a entendu d'autres choses par là-bas, non? Le but final de cette planification, oui. Moi, j'ai mis ce que vous avez dit, hein, il les interpelle sur la manière habituelle que l'on a souvent de faire des projets et qui consiste à exclure Dieu de ses projets. Et comme a dit une sœur, de marquer son indépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, j'ai intitulé cette méditation ce soir « Où est Dieu dans mes plans ?» Où est Dieu dans mes plans. Et souvenez-vous que Dieu parle contre ceux qui l'écartent quand ils font des plans, quand ils planifient des choses. Par exemple, par le prophète Ésaïe, il dit ceci en Ésaïe chapitre 30, verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Ça, des gens qui font des plans et qui ne considèrent pas Dieu dans les plans qu'ils font. Et ils font ça pour accumuler péché sur péché. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Alors, comment est-ce que Jacques va interpeller de manière peut-être un peu plus forte pour faire prendre conscience à ces personnes qui peuvent être aussi des chrétiens, hein, qui font des plans et qui ne considèrent pas, enfin qui ne le font pas de la bonne manière, qui ne considèrent pas Dieu dans ce qu'il fait. Premièrement, on peut voir ici qu'il va mettre en évidence des réalités qui sont propres à l'homme, à tout homme. Ouais. On peut regarder au verset 14, il dit... je relis le verset 13, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Ça c'est ce qu'ils disent, c'est les projets qu'ils entreprennent d'avoir. Il dit, « Vous qui, verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. » Et qui ensuite disparaît. Donc, il dit ici une chose essentiellement, mais on pourrait la décortiquer en deux. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Donc, il les interpelle sur leur méconnaissance de l'avenir. Il dit, vous ne connaissez pas l'avenir, ni ce qui va se passer dans le demain, c'est pas forcément le demain après ce soir, mais c'est la minute qui suit. Hein. Vous n'avez aucune connaissance de ce qui va se passer demain. Donc Jacques met en lumière cette tendance naturelle d'agir comme si on avait connaissance sur les événements à venir. Alors, on ne dit pas qu'on a connaissance sur les événements à venir, mais on agit comme si on avait connaissance là-dessus. Donc la connaissance humaine, elle est limitée. L'homme fait des projets ici, mais ne sait rien sur les différents changements qui peuvent intervenir, qui peuvent arriver aujourd'hui même ou encore demain. Et la Bible insiste vraiment sur cette méconnaissance qu'a l'homme de l'avenir. Proverbe 27:1 dit par exemple, Salomon qui parle, il dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Bah, tu dis ah, « On va faire ceci demain, bah, ouais, on va faire du tennis, bah, mais après... » Et on ne pense qu'à ça, notre pensée est focalisée sur ça. Et on oublie qu'on n'a aucun contrôle sur demain. Il peut y avoir la pluie, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir un attentat. On n'a aucun contrôle sur cela. Et donc, c'est ce que Jacques dit ici. Il dit, vous ne savez pas ce qui sera, ce que sera demain. Et les hommes vivent vraiment comme s'ils avaient la certitude sur le demain, comme si le demain les appartenait. J'ai vu, en préparant cette étude, j'ai tapé extrêmement, et j'ai vu qu'il y avait une émission, un feuilleton même, je crois, qui s'appelle « Demain vous appartient ». Alors, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce qu'il y a comme contenu, mais « Demain vous appartient ». Moi, je trouve que c'est une rébellion contre ce que Dieu dit. Le titre est une rébellion, déjà. Hein, donc, et quand le titre est une rébellion, le contenu ne peut pas être moins, à mon sens. Hein, à mon sens, je ne sais pas ce qu'il y a, mais « Demain ne nous appartient pas ». La Bible est claire là-dessus. Ce que Jacques dit, c'est clair. Là-dessus. Et on doit vivre avec cette pensée que « Demain ne nous appartient pas ». Demain n'est pas à nous. Et cette réalité est évidente quand on considère la soif qu'a l'homme pour savoir son avenir. Les horoscopes ou les 10 heures de bonne aventure. Beaucoup de gens plongent là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, cette conscience qu'ils n'ont pas la connaissance de demain, mais ils aimeraient l'avoir pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que voilà la personne avec laquelle je veux me marier va me rester fidèle, hein? Et donc on va voir des gens qui peuvent nous dire cela. Est-ce que telle entreprise dans laquelle je postule, c'est là où il faut que j'aille? Dites-moi de quoi sera fait mon avenir afin que je puisse prendre les bonnes décisions. Mais Jacques dit, vous devez prendre des bonnes décisions en sachant que vous ne connaissez pas demain. Il ne dit pas qu'il faut connaître ce qu'il y a demain. Il dit, parce que vous ne connaissez pas ce qu'il y a demain, il faut faire attention à ce que vous faites. Et la Bible interdit formellement de chercher ce qu'il y aura demain. Écoutez ce que Dieu dit dans Deutéronome. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ou qui évoque les esprits ou qui dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Ça, c'est très clair. Le chrétien n'a même pas besoin de se poser cette question. Feuilleter les horoscopes dans les trucs, ça, c'est à proscrire. D'accord ? Celui qui est enfant de Dieu, il fait confiance à Dieu pour son avenir. Et Dieu connaît son avenir. Lui n'a pas besoin de le connaître. Dieu le connaît. Et il doit se satisfaire du fait que Dieu connaît son avenir et être conscient de cette limitation dans laquelle Dieu le maintient, de cette non-connaissance de demain. C'est une grâce que Dieu nous permet de ne pas connaître le lendemain. Et on doit accepter cela. C'est ce que Jacques dit. Deuxièmement, et c'est quand même la même pensée, Jacques dit dans ce verset, « Car qu'est-ce que votre vie ?» Vous êtes, donc, voyez, il dit, « Vous ne savez pas de quoi sera fait demain, car qu'est-ce que votre vie ?» Et donc, c'est en fait... Ici, un appel à méditer sur sa propre vie. Il dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Qu'est-ce que votre vie ? Donc, Jacques parle ici de la fragilité de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, à tout homme. L'homme ne connaît pas le lendemain, mais l'homme est extrêmement fragile. Sa vie est extrêmement fragile. Et donc, c'est une invitation à méditer là-dessus que Jacques donne ici. Le psalmiste disait ceci, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Il dit, c'est psaume 39, il dit, verset 5, il dit, « Dis-moi combien, quel est le terme de ma vie, afin que je sache combien je suis fragile. » Et Jacques dit, c'est la même chose, il dit, « Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est que votre vie. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et puis qui disparaît. » Et donc, il utilise l'image de la fumée, hein. Parfois on dit, il y a une bouffée de fumée qui... C'est là, et puis dans une fraction de seconde, ça n'est plus là, ici. Et la Bible utilise beaucoup d'images aussi, d'autres images, pour parler de la fragilité humaine. Alors regardez, je vais vous lire plutôt, mais toujours le psaume 39, verset 6, 5, nous avons lu, il parle de 6, nous avons lu, il parle de ce... on a lu le verset qui parle de la brièveté de la vie, hein, ici, mais psaume 39, verset 6 et 5, il est dit... Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Hein, que c'est pas très grand. Hein. La largeur de la main par rapport au corps, c'est pas très grand. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, un rien. Encore une fois, voilà les expressions qu'il utilise. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Voilà encore une autre image que la Bible utilise pour parler de la brièveté de la vie. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Quelque chose qui disparaît, il dit, il s'agit de vêtements, il amasse et il ne sait qui recueillera. Donc là, on a souffle, ombre, rien, etc., qui sont des images. Mais trouvez le psaume 90, ici. Cherchez le psaume 90 regardez, et vous allez me dire quelles sont les métaphores, les images qui sont utilisées pour parler de la brièveté. Psaume 90, ici. Alors, vous regardez le psaume 90 et vous allez me dire quelles sont les images qui sont utilisées pour parler de brièveté de la vie humaine. Il y a l'herbe, oui. Alors, si on commence, l'herbe, c'est déjà au verset 5, je crois. Hein? Voilà, verset 5. Mais si on commence plus haut, au verset 3, qu'est-ce qu'il est dit ? Poussière. Il y a le mot poussière. Voilà. Et puis après, au verset 5, vous voyez ? Un songe. Hein? Un songe, quand vous... souvent, on ne se rappelle même plus des songes qu'on a eu la veille. Hein? On dit, j'ai fait quelque chose, mais on a des bribes, et puis après, ça nous disparaît. Donc, il y a l'herbe, hein, comme notre sœur a cité. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, l'herbe, ça a été dit. On a... Là. Il y a fleur, écrit ? Verset 6. Ah oui, elle fleurit le matin et elle passe. Le ? Oui, mais ce n'est pas donné vraiment comme un son. Mais oui, on pourrait en parler aussi. Mais regardez au verset 9. Un son. Hein? C'est un son, ça. Puis c'est plus. Il dit, voilà la vie de l'homme. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore ? Non, je crois que c'était le dernier ici, le son. Bon, on pourrait dire qu'il parle de la limite, hein, 70 ans sur une éternité, c'est pas grand-chose, hein, etc. Donc, vous voyez, ici, la Bible insiste vraiment sur le caractère bref et éphémère, fragile de notre vie, ici. Et donc, Jacques dit, vous qui dites, nous ferons ceci, nous ferons cela, etc., etc., souvenez-vous d'une chose. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain, parce que votre vie, elle est extrêmement fragile. Vous pouvez disparaître comme ça à l'instant. Personne de nous n'a la certitude qu'on rentrera chez nous ce soir. Personne. Personne dans cette salle. Ni même qu'on vivra dans la seconde qui suit. D'accord ? Et ça doit être, l'enfant de Dieu doit être conscient constamment de cela. Et le texte que vous avez lu dans Luc chapitre 12, versets 18 à 20, ça nous rappelle cela. Hein? Cet homme qui avait une grande récolte, et puis qui dit, qu'est-ce que je vais faire avec ma récolte ? Et il dit, eh bien voilà ce que je vais faire, je vais agrandir mes greniers, hein? Et puis je vais stocker ma récolte, et puis, eh bien voilà, je peux maintenant me reposer. Mon âme, tu as des biens en réserve pour de nombreuses années. Il a projeté de vivre de nombreuses années avec sa récolte. Et Dieu dit, que le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il a oublié une chose. Il a oublié que la vie de l'homme est fragile. Hein, et qu'il vivrait des années pour manger sa récolte, seulement si Dieu lui permettait de vivre des années pour manger sa récolte. Mais Dieu dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as ramassé, pour qui est-ce que ça sera? Vous voyez? Donc il dit, oui, on peut faire des plans, etc., mais on ne doit pas oublier qu'on ne connaît pas le lendemain et qu'on est extrêmement fragile et que notre vie n'est qu'une vapeur, qu'un souffle qui passe. Alors que faire face à cela? Eh bien, Jacques dit, regardez le verset suivant, il dit, vous devriez dire, hein, j'aime bien, il dit, vous, à vous qui dites, eh bien, vous ne savez pas, alors vous devriez dire. Vous voyez comment il dit cela? Qu'est-ce que vous devriez dire? Verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Donc, c'est-à-dire, il dit, vous devez apprendre à vivre dans la dépendance à Dieu. Apprendre à vivre dans la dépendance à Dieu. Donc, Jacques enseigne ici la sagesse avec laquelle les hommes devraient faire leur planification. Il ne dit pas qu'il ne faut pas planifier des choses. C'est sage de planifier des choses. Mais il faut, planifier en se soumettant à Dieu, en étant dépendant de Dieu. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « vous devriez dire si Dieu le veut ». On peut voir que l'apôtre Paul, par exemple, disait souvent cela, hein. Je vous lis trois passages dans Actes chapitre 18, verset 21. Il dit, il arrive à Éphèse, il sort de Corinthe, il passe en Syrie, donc après il arrive à Éphèse, et puis les frères d'Éphèse voulaient qu'il reste. Alors lui, il dit non, il dit, mais il ne consentit point. Il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Et je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Ouais. Et puis, 1 Corinthiens 4, versets 18 à 19, il dit, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. » Parfois, il le dit autrement. Par exemple, Philippiens chapitre 2, verset 19, il dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc on voit que c'était un homme qui avait des projets, mais il se plaçait, cela dans la volonté de Dieu. Et si vous lisez Romains chapitre 15, je vous ai dit tout à l'heure, verset 20 jusqu'à 33, où il parle de son voyage, l'organisation, son passage en Espagne, après il va passer ici ou là, et à la fin il termine en disant « si c'est la volonté de Dieu ». Il ne le lisait pas tout le temps, d'accord? Donc ça veut dire que ce que Jacques dit ici, Jacques ne dit pas que chaque bout de phrase, on doit dire « si Dieu le veut ». Comment vas-tu si Dieu le veut, hein? C'est pas ça que ça veut dire. Hein? C'est pas une formule verbale qui dit « voilà, vous pouvez faire vos plans, mais surtout, il faut prononcer ces mots-là, comme une formule magique. Si vous dites ça, ok, là vous êtes dans la volonté de Dieu. » Bien sûr, ça n'est pas ce qu'il dit ici, hein. Il ne veut pas dire qu'il faut dire si Dieu le veut, parfois on dit Dieu voulant, il faut pouvoir le dire quand c'est nécessaire, mais c'est plus une attitude de cœur qui montre qu'on est soumis à la volonté de Dieu qu'il faut développer. Donc, quand il dit par exemple ceux qui disent demain nous ferons ceci ou nous ferons cela, il ne dit pas simplement qu'ils sont en train de le dire. Il dit qu'ils sont en train de faire des projets. Ils disent ce qu'ils vont faire, ils planifient. Donc ça veut dire qu'ils ont une motivation dans le cœur qui a planifié de faire ceci. Ce n'est pas le fait qu'ils aient prononcé « nous allons faire ceci » qui est le problème. Ou même le fait qu'ils aient dit « nous allons faire ceci » sans avoir dit « si Dieu le veut ». Parce qu'on peut dire « je vais faire ceci si Dieu le veut » et ne pas être soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de le prononcer. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas le dire. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Quand on fait quelque chose et y a des moments où l'Esprit nous montre vraiment. Il faut bien insister là-dessus, si Dieu le veut, parce qu'il y a un témoignage à donner ici à Dieu qui dirige les choses ou des choses comme cela. Okay? Donc, il y a des moments où on doit le dire. On doit le dire quand le Seigneur nous met sur le cœur. Mais il ne faut pas considérer cela, c'est ce que je veux dire, comme une formule. C'est comme le « au nom de Jésus » à la fin d'une prière. D'accord? Ça doit avoir du sens pour nous. Quand on le dit, ça doit avoir du sens. Et donc, ce que Jacques dit ici, c'est qu'on doit être dans une disposition d'esprit où l'on cherche à se soumettre à la volonté de Dieu lorsque l'on planifie quelque chose. Lorsque l'on planifie quelque chose. Alors, bien sûr, ça ne nous empêche pas de dire, quand on va se quitter, à dimanche, si Dieu le veut. Dieu veut qu'on soit là dimanche, mais le « si Dieu le veut », ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et si Dieu n'intervient pas avant, s'il ne change pas les choses, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc on doit se le dire. Mais il ne faut pas que ça soit, je me fais bien comprendre, simplement une formule que l'on prononce comme automatiquement à la fin d'une phrase. Il faut que cette phrase traduise vraiment une attitude de cœur de soumission à la parole de Dieu, de dépendance à Dieu. Jacques dit, par exemple, au verset 16, regardez, il dit, maintenant, il parle encore aux premières personnes à qui il parlait là, il dit, maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, et c'est chose mauvaise de se glorifier ainsi. Il dit, voilà avec quel cœur ces gens font des plans. Ils font des plans, des projets, et après ils sont satisfait de tout cela, il se glorifie hein, dans ce qu'ils font. Et donc, il montre que la motivation avec laquelle ils font les plans ne sont pas des motivations qui montrent qu'ils sont soumis à Dieu. Donc, le chrétien, lui, par contre, doit dire, si Dieu le veut, ça veut dire qu'il doit le dire dans son propre cœur, soumettre son cœur à la volonté de Dieu lorsqu'il établit des plans. Ainsi, la volonté de Dieu doit présider tous les projets de l'enfant de Dieu. Donc, la disposition de ce cœur doit refléter une véritable soumission dans tous les projets qu'il envisage. L'Écriture dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Donc, il doit considérer « Oui, j'ai le désir ou le projet de faire ceci, mais cela, je veux le soumettre à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, ça veut dire que je vais soumettre mon cœur à la volonté de Dieu. Une telle soumission à la volonté de Dieu exprime vraiment une reconnaissance et aussi l'acceptation de sa souveraineté sur notre vie entière. Parfois, on ne sait pas si Dieu veut quelque chose. Ça peut arriver. On veut s'engager dans une voie, on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu que je m'engage dans cette voie-là. Et quelqu'un, comme je vous disais la dernière fois, quelqu'un a dit que 90% des choses que l'on a à faire, c'est pas écrit dans la Bible, texto, dans quelle ville tu dois habiter. Je dois choisir une ville pour habiter. Est-ce que je dois habiter ici, à côté de Saint-Denis, ou bien je dois habiter à 50 kilomètres hein? Dieu ne dit pas, habite telle ville plutôt qu'une autre. Ce n'est pas clair dans la parole de Dieu. Alors, quand je dis, si Dieu le veut, ça veut... Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je fais dans ces circonstances pour faire la volonté de Dieu? Je crois que ce qui est important ici, c'est de se soumettre à tout ce que l'on sait clairement être la volonté de Dieu, déjà. Et on va voir que, on considère parfois beaucoup de situations, parfois on a du mal parce qu'on ne se soumet pas déjà à ce qui est clair dans la parole de Dieu. Et je prends un exemple. Hein. On peut avoir parfois, quand on a fait la rencontre avec les jeunes le 1er novembre, il y avait beaucoup de questions parfois sur le mariage. Normal, il y avait des jeunes. Mais parfois en privé, on discute et il y a beaucoup qui posent des questions sur voilà, cette personne, elle n'est peut-être pas chrétienne, mais elle est gentille, elle n'est pas contre l'évangile, elle n'est pas ceci, etc. Bon, pourquoi ce ne serait pas la volonté de Dieu? Voilà. Alors, on montre les passages qui disent, tu ne te mettras pas avec un infidèle sous un joug étranger. Mais on n'est pas prêt à se soumettre à ça. Parfois, on veut épouser quelqu'un, on nous montre que c'est pas la volonté de Dieu qu'on le fasse, mais on trouve le moyen de dire que Dieu peut-être va adapter sa loi pour me permettre de le faire quand même. Après tout, c'est un Dieu d'amour. D'accord. Là, on ne fait pas les choses si Dieu le veut, hein, quand on fait ça. C'est-à-dire qu'il faut obéir à tous les commandements que Dieu nous donne et qui sont clairement établis. Et ça nous permet déjà d'être dans un chemin. Pratiquement, on sera dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour nous tromper avec nos trucs. Voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, choisis entre, tout seul. Dieu ne joue pas avec ses enfants. D'accord, Dieu est un Dieu saint. Et donc, si on obéit à sa volonté, il nous révèle aussi sa volonté. Et je crois qu'il y a un exemple avec, je crois que c'était Néhémie, à un moment donné, vous vous rappelez, lorsqu'il y avait ces hommes qui venaient et puis qui voulaient l'obliger à rentrer, c'était une ruse, hein, à rentrer dans le temple, etc. Et puis, je crois qu'il ne devait pas, lui, le faire. Et il a dit, un homme tel que moi rentrer dans le temple, il dit non, je ne le ferai pas. Il n'était pas conscient que c'était un piège. Et le texte biblique dit, il ne l'a pas fait, et alors il a compris après que c'était un piège qu'on lui tendait. Mais il a vécu par obéissance et après Dieu lui révèle que c'était, qu'il y avait une difficulté. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous marchions. On marche d'obéissance en obéissance à ce qui est clair dans sa parole. Et après, il nous révèle d'autres choses. Il nous éclaire d'autres choses parce qu'il voit qu'on est fidèle pour obéir à sa volonté. Donc c'est ça qui est important. Et quelle tristesse souvent de voir combien nous sommes prêts parfois à tordre le sens des Écritures pour le faire rentrer dans nos projets, plutôt que de nous soumettre vraiment dans l'obéissance à ce que l'Écriture nous révèle clairement. Donc Jacques dit ici, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui, verset 17, donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Et donc, il parle ici de personnes qui savent ce qu'ils doivent faire, qui connaissent la volonté de Dieu clairement et qui ne le font pas. Il dit là, vous commettez un péché. Et je crois que celui qui pêche consciemment, il connaît la volonté de Dieu, ce n'est pas la même chose. Celui qui pêche, parfois, sans, c'est toujours péché, mais je crois que c'est Jude qui le dit, hein, ils ont péché en ayant eu la connaissance. Ce n'est pas la même chose que de pêcher en ayant la connaissance. C'est-à-dire qu'on va choisir vraiment de pécher, volontairement de pécher, contre le commandement de Dieu que l'on connaît. Et ça, c'est très grave. C'est très grave pour quelqu'un qui professe être un enfant de Dieu. Donc je termine en disant ceci. Dieu est souverain, ce que ce passage nous montre, sur toute chose. Qu'on le reconnaisse ou non, ou qu'on le consulte ou non. Et il faut, comme Daniel, savoir qu'il est celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel chapitre 2, versets 19 et 21. Et donc, par conséquent, c'est une folie que de faire des projets sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Parce qu'il est souverain sur toute chose. Il est souverain sur les projets que l'on fait. Il peut faire disparaître le projet que l'on est en train de faire. Donc il ne faut pas oublier cela. Et rappelez-vous du livre d'Agé, chapitre 1, où le texte dit que les gens avaient amassé des choses, et puis Dieu dit, vous avez mis des choses dans vos greniers et j'ai soufflé dessus. On a fait des économies, on en a mis plein dans le compte en banque et Dieu, il y a la crise, la banque elle croule, il n'y a plus rien. Il est capable, il dit, c'est moi qui ai soufflé dessus. Alors bien sûr, les hommes diront, c'est une crise économique. Dieu dit, voilà, Dieu dit même, j'ai appelé la sécheresse. Alors on dira, oui, c'est les conditions climatiques. Les hommes trouvent toujours des raisons scientifiques à ce qui arrive. Et on oublie souvent qu'au-dessus de ces raisons scientifiques, il y a Dieu qui contrôle toutes choses et qui est capable de commander tous les éléments ici. Donc il est important de savoir que les cieux et la terre sont entre les mains de Dieu, et que ces choses lui obéissent. Il agit comme il veut, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur le prix du gazoil, sur le rendement de la terre, sur les hommes, sur les bêtes, sur le travail, sur toutes choses. Quoi que l'on fasse, Où que l'on regarde, on est confronté à la souveraineté de Dieu. C'est à la fois effrayant, mais en même temps, c'est rassurant. C'est rassurant, parce qu'on sait qu'on n'est pas entre les mains d'un Dieu aveugle, mais c'est un Dieu qui contrôle toutes choses. La Bible dit qu'il les fait coopérer ensemble pour le bien de ses enfants. Donc il est pour nous, hein, important de saisir ces choses. Et puis, deuxièmement, la fragilité de notre vie doit nous pousser à tout mettre en ordre dans notre vie. Hein? Notre relation avec Dieu, déjà, donc ne pas être focalisé sur nos projets, nos plans, on vit de manière horizontale, mais notre relation déjà avec Dieu, et puis aussi notre relation avec les autres. Quelle tristesse si on doit disparaître en laissant derrière nous du désastre. Hein? Lorsque Dieu avait voulu prendre Ézéchias, vous vous rappelez, il lui a dit, mets de l'ordre dans ta maison, parce que je vais te prendre la vie. Il n'a pas pris la vie, il a dit, mets de l'ordre dans ta maison avant. Ça veut dire que nous qui sommes vivants, ce n'est pas quand nous allons partir, nous devons aussi mettre de l'ordre dans notre maison, dans notre vie, notre relation avec Dieu. Ne pas faire des plans de manière inconsidérée, mais toujours nous soumettre à la volonté de Dieu dans tout ce que nous entreprenons, tout projet hein, que nous mettons devant nous, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour un logement, quelle que soit la chose, nous devons apprendre à être au clair avec notre Seigneur, à mettre les choses en ordre avec lui. Et aussi, et puis spirituellement aussi déjà, hein, on ne sait pas combien de temps on vit, si on n'a pas donné son cœur à Dieu, eh bien c'est le moment de le faire, on ne sait pas combien de temps encore on a devant nous à vivre. Toutes ces choses doivent nous pousser à le faire. Et puis je dis aussi mettre de l'ordre dans les relations avec les autres. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas pardonnées, qui ne sont pas contraignent, on ne veut pas, on résiste. C'est important de savoir que notre vie est fragile et que Dieu peut nous appeler d'un moment à l'autre. Et nous devons mettre aussi ces choses en règle. Pour être en règle avec Dieu et en règle les saints témoignages, comme il faut aussi auprès des autres. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Vous qui dites aujourd'hui, demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie que tu nous aides à considérer ces choses dans notre vie, que tu nous donnes une vie de soumission, que nous cherchions ta volonté, que nous apprenions à te consulter, que nous refusions de prendre des résolutions sans toi. Seigneur, dirige-nous. Tu sais combien nous sommes égoïstes et confiants en nous-mêmes. Mais Seigneur, aide-nous à nous abandonner à toi, qui est le Dieu saint, qui est rempli d'amour, de miséricorde. Et donne-nous, Seigneur, d'être sage dans ce que nous faisons, d'être capable de faire des projets, mais surtout, Seigneur, de nous abandonner à toi dans la soumission, de rechercher ta volonté, d'être obéissant à tout ce que tu nous révèles dans ta parole, qui est clair pour nous. Je te prie ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.